Voilà, moi j'étais aussi en vacances, donc j'ai pas remarqué que Vincenzo n'était pas là. J'étais aussi en vacances, et les vacances c'est cool parce qu'on peut faire plein de choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant le temps où on a plein d'activités. Et mon papa m'avait donc offert une grosse BD comme ça sur l'économie, puis j'ai profité de la lire pendant ces vacances, parce que ça prenait quand même pas mal de temps. Et c'était très très intéressant. C'est une BD qui explique sur comment est-ce qu'on en est arrivé à nos systèmes économiques occidentaux d'aujourd'hui. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé lire cette BD. Mais ça laisse quand même un arrière-goût amer en lisant cette BD, tant le développement de notre économie mondiale, elle a laissé des hommes et des femmes dans une misère extrême, jusqu'à même la mort, par des choix économiques, par des stratégies et des choses comme ça. Donc ça laisse un arrière-goût vraiment pas très agréable. Et puis ça, c'est un peu ce qui a inspiré mon message de ce matin, c'est de me dire, mais le monde imparfait dans lequel on vit, il est appelé à être ultimement remplacé par le royaume de Dieu, qui a des valeurs tout autres. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la logique du mérite humain, mais selon la souveraineté et la grâce de Dieu. Jésus l'explique souvent à travers des paraboles, des histoires, et puis on va aujourd'hui s'intéresser à l'économie du royaume à travers des paraboles qui parlent de vignes. Et puis comme introduction, j'aimerais nous rappeler que ce qui est dit en Luc 17 au verset 20, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Donc dans toutes ces réflexions autour du royaume, on peut s'imaginer le royaume comme quelque chose de distant. Mais en fait, le royaume, il est déjà partiellement là, depuis que Jésus est venu. Et ça veut dire qu'aujourd'hui déjà, on a beaucoup, beaucoup d'enseignements à tirer de ces histoires. Alors je vous invite à lire la première de nos paraboles, la principale sur laquelle je vais parler. C'est en Matthieu 20, au verset 1 à 16. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et on aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, vous aussi allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures dans l'après-midi, et à chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers, pour finir par les premiers. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Mais le maître répond à l'un d'eux. Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Voilà jusqu'ici notre première lecture. Le premier point, c'est que l'économie divine n'est pas fondée sur la performance, mais sur la grâce. Et on a chanté la grâce, et je suis très content d'avoir chanté ce chant, parce que c'est vrai, on vit dans une société capitaliste où l'idée est assez simple. Plus je travaille, plus je reçois. Enfin, c'est la théorie, en tout cas. Il y a beaucoup de distorsions à ce modèle. Certaines distorsions sont négatives. Par exemple, on se fait abuser au travail, on doit travailler beaucoup plus, on n'a pas un salaire suffisant. Ça, c'est les distorsions négatives. Puis heureusement, il y a aussi quand même quelques distorsions positives à ce modèle dans notre société. Par exemple, l'aide sociale générale, que ce soit l'AVS, l'AI, l'assurance chômage, qui soutient ceux qui ne peuvent pas travailler. Et on ne les laisse pas mourir parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc il y a quand même deux, trois distorsions au modèle. Mais malgré tout, on développe quand même, chacun de nous, une espèce de notion d'équité basée sur ce modèle, parce que c'est dans lequel on vit tout le temps. C'est équitable, si je travaille dur, je reçois beaucoup. Et puis, si je ne travaille pas dur, je reçois pas beaucoup, ou moins. Et puis, cette parabole, elle nous apprend quelque chose de tout autre. Ce n'est pas selon mon mérite que je suis payé. Le salaire est identique. Un denier, c'est le salaire de la journée pour quelqu'un. Un denier, c'est ce qu'ils ont besoin pour vivre à peu près à l'époque, pour une journée. Pour tous. Voilà le scandale de cette histoire. C'est un denier pour tous. Dans l'économie humaine, travail différent égale salaire différent. Dans le royaume, même salaire pour tous, quel que soit le travail accompli. Et puis, ce salaire, on l'a tous compris, ce salaire, c'est pas un salaire, c'est une image pour représenter le salut, pour représenter le royaume de Dieu, la communion avec Dieu, et c'est un salaire merveilleux. Et puis pour nous, je trouve que c'est un message incroyablement libérateur. Dans un monde axé sur la performance individuelle, sur la recherche incessante de croissance et de toujours plus, on peut être un chrétien et se sentir faible, un peu nul, un peu minable, et se dire « qu'est-ce que je suis, moi, en tant que chrétien, je ne réussis pas, ce n'est pas assez bien. » Et pourtant, cette parabole, elle nous rappelle que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est simplement d'aller et accepter de travailler dans cette vigne. Même si on travaille 10 fois moins qu'un autre, c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça, c'est un message libérateur pour nous quand on a l'impression que vraiment, on n'est pas à la hauteur de la grâce de Dieu. Puis à l'inverse, ça peut aussi être un message un peu challengeant quand on est des chrétiens qui avons beaucoup de bouteilles. Dans notre société où on s'est un peu pensé sur le mérite individuel, je pense que des fois, il nous arrive à chacun d'avoir une espèce de méritocratie où se dire « si je fais ça, peut-être que Dieu m'écoutera plus. » Des fois, moi, il m'arrive de me dire « je prie, mais bof, j'ai pas été très très bien cette semaine. Est-ce que Dieu vraiment va m'écouter ?» En fait, ça, c'est une sorte de méritocratie. On met Dieu dans une espèce de bouteille et ça ne dit pas ça. Ça dit si on travaille plus, c'est quand même la grâce qui fait foi. Et ça peut être aussi challengeant dans nos vies de chrétiens, à certains temps de nos vies. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Jésus était très très sévère envers les pharisiens. Parce qu'eux, ils représentaient pas mal cette idée de la méritocratie, où ils faisaient beaucoup de choses pour gagner leur salut. Et puis d'ailleurs, il y a encore quelque chose qui est intéressant dans cette parabole, il y a encore beaucoup de choses intéressantes, mais là il y en a une, c'est que c'est le propriétaire qui va chercher les travailleurs pour la vigne. Et ce n'est pas les travailleurs qui viennent chercher du travail. C'est Dieu qui appelle à son royaume. Et il revient juste aux travailleurs d'aller accepter d'aller travailler dans la vigne, lorsqu'ils sont appelés. Et ça aussi, ça challenge un peu notre vision de la méritocratie. On ne peut pas dire à Dieu « je mérite plus parce que j'ai plus fait ». Et c'est rigolo, si vous relisez ce chapitre 20 de Matthieu, je vous invite d'ailleurs à le lire aussi le 21 après à la maison si vous avez le temps, il y a une autre histoire juste après. Et c'est Jacques et Jean, les disciples, qui tentent un truc et qui font l'amère expérience. Ils tentent le coup avec leur maman d'aller vers Jésus et disent « regarde comme nous, on t'a bien suivi, on aimerait, quand le royaume de Dieu vient, être assis à ta droite et à ta gauche. Est-ce que tu peux nous accepter parce qu'on fait si bien les choses ?» Juste après ce passage, c'est très intéressant. Et donc Jésus, il profite pour leur refaire passer un message. Il leur dit « ce que vous dites, de toute façon, ce n'est pas moi qui vais décider, c'est Dieu, c'est beaucoup trop ce que vous dites. » Et puis il leur fait passer un message aussi à tous les disciples, parce que ça génère des frustrations, de la jalousie entre les disciples. Alors Jésus appela tous les disciples auprès de lui et dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations ? Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et ça m'amène à mon deuxième point, la générosité divine. Jésus est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il y a une immense générosité divine et c'est basé là-dessus dans l'économie du royaume. Je vous relis un petit passage qu'on a lu avant, c'est quand le propriétaire va donner l'argent. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » On voit bien que c'est une situation un peu fictive. Qui ferait ça dans la vraie vie ? Appeler en premier les derniers pour générer de l'envie ou de la frustration chez les premiers travailleurs parce que comparativement leur salaire par heure il est bien moindre. Personne de sensé ne ferait ça, générer de la frustration chez ses employés. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des différences salariales ? On essaye plutôt de les cacher, on garde ça un peu secret. Et là, c'est justement le contraire. Et ça attire notre attention sur ce passage, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre ici ? J'en ressors deux choses. La première, et c'est si vous devez ressortir qu'un seul point de ce message, je dirais c'est celui-ci. C'est le propriétaire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « M'en veux-tu parce que je suis bon ?» demande le propriétaire. Dieu est bon. La bonté de Dieu n'a pas d'égal. Et dans un monde dans lequel on vit, ça fait un bien fou de se dire qu'en fait, le Dieu créateur de toutes choses, il est immensément bon. Des fois, on voit le monde et on se dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» On peut être un peu dépité, mais en fait, qu'on soit arrivé les premiers, qu'on soit arrivé les derniers auprès de Dieu, Dieu est bon. Et puis, c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire être accepté par Dieu tout à la fin ? Être un employé ou un ouvrier de la dernière heure ? Personne ne sait, sauf Dieu. Et vous, j'imagine que peut-être vous avez des gens autour de vous qui ne connaissent pas Dieu. Ça peut être la famille, les amis, les collègues. Et puis, des fois, je pense que vous êtes comme moi et on se dit, ça nous tend ou ça nous attriste qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Cette parabole, elle est pour nous dans ces moments parce qu'elle nous dit que Dieu est bon et qu'il appelle chacun jusqu'au tout dernier moment. Alors, on ne sait pas ce que c'est ce tout dernier moment, il y a des théologiens qui essaient d'imaginer ce que ça peut être, mais ça fait du bien dans les moments où on se dit « mais c'est proche, que j'aimerais tellement qu'ils se convertissent ». Eh bien, Dieu est bon et il fait grâce jusqu'au dernier moment. Et la deuxième chose qu'on tire de ce petit passage, de cette distribution de salaire, c'est le danger de la comparaison. Voilà ce que disent les gens qui sont mécontents. Ils disent « Ceux-là sont arrivés les derniers et ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée. » En fait, ils ne sont pas mécontents du salaire qu'ils reçoivent. Ils sont mécontents parce que le propriétaire est spécialement généreux envers les derniers arrivés. Si les premiers arrivés avaient été payés en premier et ils étaient partis, ils auraient été tout contents d'avoir reçu leur salaire journalier. C'est ce qu'ils avaient décidé, c'est ce dont ils ont besoin pour vivre, c'est ce qu'ils s'attendent. Mais en fait, parce qu'ils voient et qu'ils se comparent aux autres, ils en perdent leur joie. Et combien de fois est-ce que ça peut nous arriver à nous de nous comparer et d'en perdre la joie de ce qu'on a ? Souvent, on voit les autres et on voit juste la petite pointe de l'iceberg et on se dit « Ah, mais c'est tellement bien ce qu'ils vivent !» Et on voit juste cette partie-là, et puis on se compare, et puis on se dit « Ah, mais pourquoi moi ? C'est pas comme ça pour moi hein ?» Mais en fait, on ne voit pas toute la partie globale, et là, ce passage nous dit « Attention à la comparaison !» Et puis dans un monde où on vit aussi avec les réseaux sociaux, c'est un des principaux points aussi, un des risques des réseaux sociaux, c'est que dans les réseaux sociaux, on voit beaucoup, beaucoup la belle partie de la vie des gens, parce que bien sûr, on les polie, on montre les belles photos, les beaux trucs. C'est rare que quand on est déprimé, on expose tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, si on se compare de plus en plus et qu'on n'y fait pas attention, ça peut être néfaste pour nous. Donc, posons-nous cette question. Est-ce que la comparaison m'apporte des bonnes choses? Est-ce que j'arrive à me réjouir lorsque Dieu bénit quelqu'un d'autre? Cette parabole, c'est donc un appel au contentement et être heureux de la bonté de Dieu. Et puis, ça m'amène à mon troisième point, qui est la dernière phrase de la parabole. On peut relire ensemble ce que Jésus dit. Mais le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon? Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. » Les premiers seront les derniers, c'est une citation qu'on a probablement déjà tous entendue dans les églises, hein, qui décrit un vrai renversement des rôles. Et dans ces chapitres 20 et 21 de Matthieu, Jésus, il illustre de plusieurs manières ces renversements de rôles sous plusieurs angles. D'abord, dans cette parabole, sous l'angle de la grâce et de la bonté. Dieu est bon et il fait grâce à tous. Qu'ils soient arrivés en premier ou en dernier, ça ne change rien. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là sur le renversement des rôles. Je l'ai mentionné avant en passant sur l'histoire des disciples qui veulent être assis aux meilleurs endroits au paradis, à gauche et à droite de Jésus. Jésus va renverser les rôles en leur rappelant « Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même. Dans notre monde, on cherche à nous dire qu'il faut être le premier, qu'il faut être toujours plus riche, toujours plus puissant, avoir plus. Et Jésus nous dit, ne cherchez pas la puissance, ne cherchez pas à vous faire servir. Si vous voulez être grand, devenez serviteur. Et franchement, si on arrivait à appliquer un petit peu cette parole dans nos vies, qu'est-ce que le monde serait beau dans nos couples, dans nos cercles, si tout le monde faisait ça, si chacun arrivait à appliquer, être le serviteur de notre entourage et on se sert mutuellement, eh bien on aurait réglé une grande partie des problèmes de nos sociétés. Alors ça, c'est un message, si on arrive à le pratiquer et à le faire pratiquer autour de soi, ça serait merveilleux. Et Jésus ne s'arrête pas à ce renversement-là, il a encore une illustration à faire passer à son audience sur les premiers qui seront les derniers. Et là, je vous lis la deuxième parabole qui dit de la vigne, au verset 28 de Matthieu 21. Un homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. »« Je n'en ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver son second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, mon seigneur, j'y vais. » Mais n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. » Jésus, dans cette parabole, il vise des gens en particulier, les pharisiens et les chefs des prêtres. C'est noté au verset 45. C'est vraiment, il les vise eux. Et puis on en a parlé avant, parce qu'il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui disent « oui, oui, je vais faire » et ils ne font pas. Dans cette parabole, hein, il y a d'autres catégories de gens. Et puis après, il y a ceux qui disent « non, non, je ne fais pas », puis finalement, ils se disent « je vais quand même aller faire ». Et puis, ben, les pharisiens, les chefs des prêtres, c'est ceux qui sont censés faire la volonté de Dieu, c'est ceux qui sont censés représenter Dieu pour le peuple. Mais Jésus les vise dans cette histoire parce qu'ils ne font pas ce que Jésus dit. Ce que Jean leur a montré par sa vie juste, ils ne l'appliquent pas. Ce que Jésus leur demande de faire, ils ne l'appliquent pas. Et donc eux, ces premiers, seront dépassés ou précédés dans ce passage par ceux qui sont vus comme les derniers de la société, par exemple les prostituées et les collecteurs d'impôts. Eux, ce sont ceux qui, initialement, n'avaient pas écouté le Père, mais qui finalement ont cru et ont fait ce qu'il lui demande. Le message ici, c'est être chrétien, ce n'est pas dire « je suis chrétien ». Être chrétien, c'est faire ce que Dieu nous demande. Dieu s'en fiche des apparences. Ce qui compte, c'est qui nous sommes réellement. Ce passage, c'est l'un des nombreux passages du Nouveau Testament qui illustre ça. Et c'est pour ça que Jésus était autant sévère avec les pharisiens, qui se disaient bons, mais qui, au fond, ne voulaient pas forcément suivre Jésus. Et puis, avant de conclure, juste après la fin de ce verset 21 de Matthieu, il y a encore une troisième parabole qui parle de la vigne, mais celle-là, je ne vais pas en parler parce que le temps imparti m'est un peu fini. Mais je vous invite à la lire à la maison. C'est encore une troisième parabole qui parle de la vigne. Et puis, dans cette parabole, je vous dis juste la conclusion de cette parabole qui vise une fois de plus les pharisiens. Il leur dit « Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Donc, si ça vous intéresse de savoir quelle est la parabole dont je parle, vous pouvez aller la lire. Mais le message à la fin, c'est Jésus qui fait de nouveau un renversement des rôles. Une fois de plus, les premiers seront les derniers. Ceux qui avaient reçu le royaume de Dieu, eh bien, ça ne sera plus eux qui l'auront, et ça sera ceux qui ne l'avaient pas reçu, le peuple qui en produit du fruit. Donc Dieu s'attend à ce que le peuple produise du fruit. C'est nous le peuple. Il s'attend à ce que nous produisions du fruit. Mais, on l'a vu au début de la première parabole, ce n'est pas basé sur la performance. Ce fruit qu'on produit, ce n'est pas basé sur la performance. Le royaume de Dieu, il ne récompense pas celui qui travaille le plus, mais sur la grâce et la bonté divine. Et cette grâce et cette bonté divine, elle nous appelle à renverser les valeurs du monde pour laisser celles du royaume nous transformer, pour que nous devenions les derniers ou les premiers, selon le point de vue. Bref, vous m'avez compris, je vous invite à prier. Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure et on veut encore le redire. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu aimes ce monde, tu nous aimes chacun, tu as créé une création magnifique pour chacun de nous. Et même si on n'est pas à la hauteur, tu nous fais grâce. Et c'est ce message, Seigneur, pour lequel on veut te louer, parce que en tant que créateur du monde, tu peux tout et pourtant tu nous fais grâce immensément jusqu'à la fin. Merci pour ton amour. Et Seigneur, je te prie que chacun de nous puissions, durant cette semaine, être remplis de ton amour, le ressentir, le vivre, et qu'on puisse être réellement aussi vecteur de cet amour auprès de ceux que l'on côtoie, Seigneur. Que l'amour que l'on ressent de toi, on puisse le partager autour de nous. C'est ma prière pour chacun de nous, et je te prie de nous bénir pour cette semaine. Amen.